Radio Kapi.
Le journal Blaise Shindani Kambala.
Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Au sommaire de ce journal, Human Rights Watch prend position face à ce qu'elle qualifie de restriction de l'espace politique en RDC. Lors d'une conférence de presse tenue à Kinshasa, son directeur exécutif attire l'attention du pouvoir en place de ne pas restreindre la liberté d'expression et les manifestations publiques pacifiques. L'IGF se dote des moyens de contrôle systémique. Ce nouveau dispositif a été présenté ce mercredi 20 mai à Kinshasa. Cette nouvelle approche de contrôle s'inscrit dans le cadre de la modernisation de l'Inspection générale des finances qui tient à se transformer en véritable organe d'intelligence financière 39 ans après sa création. L'invité de ce journal est le député national Jethro Muyombi, élu de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Il revient sur la question d'actualité qu'il a adressée à la SNEL concernant les coupures récurrentes et les déficits de production énergétique en République démocratique du Congo. Encore une fois, bonjour à tous. L'ONG internationale Human Rights Watch prend position face à ce qu'elle qualifie de restriction de l'espace politique en RDC. Le directeur exécutif de cette organisation, en visite à Kinshasa, s'est exprimé sur cette question hier jeudi au cours d'une conférence de presse tenue ici, dans la capitale. Selon Philippe Bolopion, depuis l'annonce de la possibilité d'engager une réforme constitutionnelle, une vive tension semble s'installer dans la vie politique, à l'instar de l'époque de la fin du mandat de l'ancien président Joseph Kabila. Human Rights Watch attire l'attention du pouvoir de ne pas restreindre la liberté d'expression et les manifestations publiques pacifiques. Écoutons Philippe Bolopion au micro d'Askin Zigbatayoro.
On pense qu'il y a vraiment un risque dangereux. Ça nous rappelle d'une certaine manière la situation vers la fin du mandat du président Kabila, quand il y avait vraiment un effort pour essayer de faire taire l'opposition. Et pour nous, c'est vraiment dangereux ce moment dans la vie politique congolaise où il y a vraiment un risque de recul, de marche arrière sur l'espace démocratique dans ce pays. Un des sujets sur lesquels nous avons beaucoup travaillé, ce sont les disparitions forcées ou les arrestations arbitraires. Notre espoir, c'est vraiment que cet espace civique, cet espace démocratique ne rétrécisse pas plus, mais qu'au contraire, les autorités prennent des mesures pour s'assurer que les gens puissent manifester pacifiquement quand ils en ont le désir, puissent s'exprimer comme ils l'entendent dans les médias indépendants, puissent exprimer leurs opinions politiques, y compris sur l'opportunité ou non d'un changement de la Constitution, et de voir ce climat de peur, c'est assez saisissant pour nous. Human Rights Watch a longtemps travaillé en République démocratique du Congo. Nous connaissons la vigueur du débat civique dans ce pays, et pour nous, ce serait une grande perte de voir les autorités essayer de restreindre cette liberté d'expression.
Au cours de sa conférence de presse, Philippe Bolopion dit avoir eu un échange franc avec les autorités congolaises et différentes organisations de la société civile sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC et de la vie politique actuelle à Kinshasa. Et puis, la situation des déplacés internes en Ituri et dans les Tanganyika au cœur des échanges ici à Kinshasa. Autorités nationales et provinciales, notamment les ministres de l'Intérieur, du Plan et celles des Affaires sociales, des gouverneurs ainsi que des partenaires internationaux échangent depuis hier jeudi autour de cette problématique. Question de trouver des solutions durables pour se déplacer et ensuite élaborer une feuille de route en vue d'une aide humanitaire mieux coordonnée. Ces déplacés sont plus de 390 000 pour les Tanganyika et 929 000 en ce qui concerne l'Ituri depuis janvier. Des chiffres présentés par le gouverneur Christian Kitungwa Muteba et le lieutenant général John Duboy en Kachama en visioconférence. Je vous signale que cet atelier stratégique est organisé par le groupe de concertation Nexus Humanitaire Développement Paix. Reportage signé John Chibwabwa et Esther Mamboté.
La mobilisation des ressources et l'harmonisation des stratégies figurent parmi les résultats attendus au cours de cette activité. Dans la salle, le gouverneur de Tanganyika, Christian Kitungwa, a expliqué la situation des déplacés dans sa province.
La province du Tanganyika compte plus de 391 000 personnes déplacées internes fuyant les hostilités dans les deux provinces voisines.
Par visioconférence, le gouverneur de l'Ituri parle de plus de 9 000 déplacés dans sa province. Le lieutenant général John Luboya.
Notre province fait face à des crises répétitives ayant pour conséquence de graves violations de droits humains, la destruction des infrastructures ainsi que les déplacements des populations. Actuellement, la province compte plus de 926 000 personnes déplacées internes.
Autre intervenant, Kalinga Kitsuka et Jeanne plaident pour des solutions durables afin d'éviter une aide répétitive.
Le modèle actuel a atteint ses limites parce que on était obligé de donner une tente, l'eau en bouteille, sac de riz, ainsi de ce qui faisait que les coûts étaient toujours élevés et les opérations étaient répétitives. Une solution durable, c'est une aide qui tient dans les temps.
L'atelier se clôture ce vendredi 22 mai.
Environ 14 radios communautaires de l'Ituri retrouvent les sourires. En tout cas, elles bénéficient déjà des systèmes des panneaux solaires. Geste signé Monisco à travers sa section de l'information publique. La cérémonie de remise des équipements aux quatre derniers bénéficiaires s'est déroulée hier jeudi à Bounia. Selon le responsable de ces médias, sans cette assistance, certaines radios seraient aujourd'hui à l'arrêt. Pour la Monisco, cette initiative vise à permettre aux radios d'émettre régulièrement afin de contribuer au processus de paix en Ituri et à la lutte contre la désinformation. Reportage signé Isaac Remoyope.
N'eût été cette dotation en kit solaire, la radio Cantipe serait déjà fermée.
C'est en ces termes que le directeur de la radio de l'Institut supérieur pédagogique ISP Bounia a exprimé sa gratitude envers la Monisco pour cette assistance. Confrontée à une coupure du courant électrique depuis environ 3 ans, la radio fonctionnait grâce à un groupe électrogène consommant près de 20 litres de carburant par jour. Épuisée par les dépenses liées au carburant, cette station estime que cette dotation permettra désormais de relancer durablement ses activités au bénéfice des milliers d'auditeurs. Freddy Lorima, directeur de la radio Candipe.
Nous n'avons plus connu les coupures des émissions. Ce qui nous aide grandement. On aurait dû réduire, émettre 2 heures par jour et fermer parce qu'on n'a plus de dioxyde.
L'autonomie énergétique constitue un défi majeur pour la majorité des radios communautaires à Bounia, dont 14 séries, une vingtaine, ont déjà bénéficié de cet appui de la Monisco pour un coût total d'environ 150 000 $. Makin Django, un cadre de la radio Saoutia Njili.
Tous ces panneaux, ça nous aide beaucoup. C'est ça le problème même de beaucoup de radios. C'était vraiment un casse-tête. Mais avec l'aide de la Monisco, ça nous a beaucoup aidé.
Par ailleurs, la Monisco a également assuré plusieurs sessions de formation des journalistes à Bounia à la lutte contre la désinformation et l'écriture journalistique. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
L'inspection générale des finances IGF se dote de moyens de contrôle systémique. Ce nouveau dispositif a été présenté ce mercredi 20 mai à Kinshasa au cours d'une conférence de presse animée par Christophe Bitassimwa Bayi, inspecteur général des finances, chef de service. Plus de précisions avec vous, Jean-Marc Matouaki.
Cette nouvelle approche des contrôles s'inscrit dans le cadre de la modernisation de l'inspection générale des finances qui tient à se transformer en véritable organe d'intelligence financière. D'après l'inspecteur général des finances, chef de service, Christophe Bitassimwa, les contrôles systémiques et préventifs, car il permet de détecter les défaillances avant les pertes, fraude, évasion, gaspillage. Il s'appuie sur l'interconnexion des systèmes d'information, fiscaux, douaniers, payes, marchés publics. Ces contrôles croisent et traitent les données sur les flux financiers pour repérer les incohérences. Les contrôles systémiques renforcent la gouvernance, uniformisent les procédures, corrigent les failles systémiques, évolutifs, ajustées en contenu, a expliqué M. Christophe Bitassimwa. Avant de poursuivre, l'objectif n'étant plus seulement d'auditer des pièces comptables ou des dépenses de manière ponctuelle, mais d'avoir une vue d'ensemble des circuits et flux économiques du pays en temps réel pour une sécurisation en amont de l'argent de l'État.
Le gouvernement congolais vient de franchir une nouvelle étape dans la modernisation de son administration. Le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique a officiellement lancé ce jeudi à Kinshasa le prix du service public. Cette initiative vise à valoriser l'excellence au sein des institutions publiques. Toutes les souscriptions se passeront en ligne à dater du 21 mai jusqu'au 30 septembre 2026. Reportage rendu par Christian Makasinga.
Cette initiative vise à travers un processus de sélection rigoureux, transparent et ouvert, conduit par un jury indépendant international, à récompenser des pratiques exemplaires et innovantes concrètes mises en œuvre par les administrations et services publics. Prenons la parole, le directeur général de l'École nationale d'administration a circonscrit l'essence de cette cérémonie et comment les choses vont se passer. Tombola Moke.
Donc l'appel à candidature est en ligne, le formulaire est en ligne, un jury international a été mis en place, c'est un jury composé de 13 membres, tous des internationaux, qui ont commun d'avoir participé à l'organisation des prix du service public dans le monde, des prix prestigieux du service public. Nous voulons que ces prix soient également des prix prestigieux pour récompenser les bonnes pratiques.
Pour sa part, le vice-premier ministre a souligné que ces prix visent à encourager les meilleures pratiques au sein de l'administration publique. Il a insisté sur la nécessité de promouvoir l'innovation, la transparence et la qualité des services rendus aux citoyens.
L'heure de mettre un focus sur la qualité du service public est arrivée. Et nous allons essayer de faire en sorte que nous puissions aller vers une administration publique efficace, une administration publique efficiente, qui soit au rendez-vous du rendement et des résultats. C'est ce que nous recherchons. Et stratégiquement nous permettre d'améliorer la qualité du service public.
Les prix du service public a-t-on contribué à l'amélioration durable de la qualité des services rendus aux usagers en RDC?
Le palais de justice de Beni fait peau neuve. La MONUSCO, à travers sa section d'appui à la justice, a lancé hier jeudi les travaux d'extension de cette infrastructure. Inscrit dans les projets à impact rapide, ces chantiers prévoient la construction et l'équipement des 6 bureaux et de 2 salles de réception et des installations sanitaires. Financé à hauteur de 60 000 $ américains, il vise à améliorer les conditions de travail des magistrats et servira également de bureau provisoire à la Cour d'appel et au parquet général du Nord Kivu, délocalisé provisoirement à Beni depuis l'occupation de Goma par la FC M23 en janvier 2025. Le magistrat Billy Boulay Kitenge, président intérimaire de la Cour d'appel du Nord Kivu, revient sur l'importance de ce projet au micro de Martial Papimukeba.
Ce projet rentre dans le cadre de réponse aux besoins persistants des infrastructures. Pour bien travailler, il faut avoir un cadre dans lequel on peut être à même de produire la justice de bonne qualité. Lorsque nous sommes venus de Goma, nous sommes retrouvés en errance, c'est-à-dire qu'on ne savait où s'asseoir, où poser les pieds. Les 2 locaux que nous occupons, c'est des salles de juges divins de grande instance, mais les autres juges et les autres greffiers sont entassés dans un local. Les juges n'ont pas où travailler et même les dossiers ne sont pas conservés parce qu'il n'y a pas d'espace. Ce projet va contribuer sensiblement à l'amélioration de la qualité du travail qu'on attend de la Cour d'appel. Parce que, comme haute juridiction de la province, il était inconcevable que l'on ne soit nulle part, l'on soit visible nulle part, l'on ne soit installé nulle part, parce qu'il n'y avait pas d'infrastructure. Donc ce bâtiment annexe va vraiment nous donner un abri sûr, et les dossiers seront bien conservés, et le travail sera très bien fait. Et même les justiciables qui ont des problèmes à soumettre à la haute hiérarchie savent où nous trouver, parce que avant on n'avait pas de lieu de travail.
Les travaux de construction vont durer 3 mois. Nord Kivu encore, plusieurs détenus condamnés en premier ressort par la justice militaire dans la ville de Butembo attendent toujours l'examen de leur recours en appel. Incarcéré à la prison urbaine, un établissement confronté depuis plusieurs mois à un grave surpeuplement carcéral, certains parmi ces prisonniers patientent depuis des années sans être réjugés. Dans une lettre ouverte aux autorités judiciaires militaires, le réseau pour les droits de l'homme REDO, une organisation de défense des droits humains basée dans la région, appelle à organiser en urgence des audiences foraines afin d'examiner les dossiers des détenus en appel. Les détails avec Martial Papimukeba.
Dans sa correspondance adressée au premier président de la Cour militaire du Nord Kivu, les rideaux affirment qu'au moins 78 détenus condamnés en premier ressort par les tribunaux militaires des garnisons de Butembo attendent toujours l'examen de leurs recours devant la juridiction d'appel. L'organisation plaide pour l'organisation rapide d'audiences foraines à Butembo en fait de réexaminer les dossiers concernés. Mwindo Wasivinywa, coordonnateur du rideau, s'exprime.
Plus de 78 détenus sont en appel à la Cour militaire du Nord Kivu. Certains sont à voir de purger les peines prononcées au premier degré alors qu'ils sont en appel. Ils voudraient que la Cour puisse réexaminer le dossier. Le constat est qu'il y en a ceux qui ont passé plus de 4 à 5 ans alors qu'ils ont déjà interjeté appel.
Jusqu'à présent, aucune réaction officielle du premier président de la Cour militaire du Nord Kivu n'a été enregistrée. Par ailleurs, la prison urbaine de Kakwangura à Butembo continue de faire face à un important surpeuplement carcéral. Plusieurs cas de décès y ont été également signalés ces derniers mois. Beni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Politique à présent, le président du parti Démocratie Chrétienne n'est favorable ni au changement, ni à la révision de la Constitution et encore moins au dialogue. Eugène Diomindongala a exprimé sa position lors d'un échange avec la presse hier jeudi à Kinshasa. Il encourage les chefs de l'État à décréter un état d'urgence nationale afin de recréer la cohésion et l'unité du pays dans le but de faire front commun contre l'agression rwandaise dans la partie orientale de la RDC. Le propos d'Eugène Diomi, recueilli par Blaise Ndonga.
Comment on peut changer la constitution au moment où le pays n'est pas uni? Comment on fera le référendum? Car il n'y a même pas la loi sur ça. La constitution va tomber caduque, mais pour le faire facilement, je demande au chef de l'État de mettre en application l'article 85 de la constitution. On se mobilise pour créer la cohésion nationale. À partir de la cohésion nationale, il n'y aura plus de raison d'évoquer l'article 64. Nous ne pouvons parler de cet article qu'en cas d'une rébellion. Il est temps que nous puissions changer la façon de faire la politique dans notre pays. Travaillons pour l'intérêt du peuple. Soyons unis pour récupérer le Congo dans son entièreté avant de parler de changement de la constitution ou encore dialogue. Nous devons d'abord tout faire pour récupérer les villes de Goma et Bukavu.
Actualité internationale.
La Cour suprême de N'Djamena a rejeté jeudi 21 mai le pourvoi en cassation déposé par le collectif d'avocats de l'ancien chef du gouvernement, rendant ainsi définitive sa condamnation de 20 ans de prison ferme pour avoir diffusé en 2023 un message qui aurait provoqué 2 ans plus tard des affrontements intercommunautaires sanglants à Mandakao, selon la justice tchadienne.
L'invité.
Notre invité est le député national Jethro Muyombi, élu de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Il revient sur la question d'actualité qu'il a adressée à la Société nationale d'électricité concernant les coupures récurrentes et les déficits de production énergétique en République démocratique du Congo. Jethro Muyombi s'entretient avec Alain Irung.
Monsieur le député Jethro Muyombi, bonjour.
Bonjour, monsieur Irung.
Quel constat vous a poussé à adresser cette question d'actualité à la SNEL sur la problématique de l'électricité en RDC?
Le constat est simple. Aujourd'hui, la crise de l'énergie est devenue une crise nationale qui touche directement la vie quotidienne de nos populations, l'économie nationale ainsi que le fonctionnement des institutions publiques. Donc à Kinshasa, comme dans plusieurs provinces, notamment le Haut-Katanga, le Nord Kivu, le Congo central ou encore le Lualaba, les délestages sont devenus récurrents et parfois insupportables même. Le ménage, les hôpitaux, les écoles, les petites entreprises et même les industries subissent de lourdes conséquences. Ça, c'est une réalité que personne n'ignore dans notre pays. Et c'est tout ça qui nous a poussé à initier cette question d'actualité dans le but de rechercher les voies et moyens afin d'y pallier.
Après les explications du DG de la SNEL, estimez-vous que les causes des délestages sont uniquement techniques et légales ou existe-t-il aussi un problème de gouvernance dans le secteur de l'électricité, par exemple?
D'abord, il faut dire que j'ai noté que les DG a une volonté de pouvoir bien faire les choses, mais il y a des causes endogènes et exogènes. Il faut se concentrer sur toutes ces causes-là pour essayer de chercher une après l'autre des solutions idoines. Alors, je pense aussi que toutes ces questions-là sont des questions qui sont possibles à rencontrer et résoudre cette question de l'électricité.
La SNEL affirme que certaines dispositions de la loi sur l'électricité freine les investissements privés dans la production énergétique. Faut-il aujourd'hui revoir cette loi pour vous en tant que législateur?
Toute loi doit pouvoir être évaluée à l'épreuve de la réalité. Si certaines dispositions de la loi sur l'énergie, sur l'électricité constituent effectivement un frein aux investissements, notamment dans la production, les transports ou même la distribution de l'énergie, alors il ne faut pas exclure l'idée d'une révision ciblée responsable. Donc la RDC possède un potentiel énergétique immense et parmi les plus importants du monde d'ailleurs. Mais ce potentiel reste largement sous exploiter. Nous devons créer un cadre juridique qui rassure les investisseurs tout en protégeant les intérêts stratégiques de l'État et des populations congolaises.
Vous êtes élu du Haut-Katanga, de la ville de Lubumbashi. Il y a des grandes entreprises là-bas, mais entre-temps, il y a certains coins du pays comme le territoire de Sakanya et d'autres qui sont alimentés par le courant venu de la Zambie, tantôt menacés de coupures. Est-ce que vous trouvez cette situation normale?
La situation n'est pas normale, je peux tout simplement dire. D'ailleurs, comme j'étais en train de répondre à la question précédente, il faut aussi ajouter que la révision de la loi ne suffira pas à elle seule. Il faut également garantir la stabilité institutionnelle, la sécurité juridique des investisseurs et une gouvernance crédible du secteur énergétique. Pour aussi revenir maintenant à votre question que vous venez de poser, si nous essayons de nous mettre ensemble sans aller à gauche ou à droite ou chercher de solutions à l'extérieur, c'est là que nous aurons des réponses ou des solutions exactes qu'il faut pour pallier à toutes ces questions. Donc la situation n'est pas acceptable. C'est ça même qui nous pousse à poser des questions dans ce sens-là et à rechercher de solutions.
Si dans les grandes villes c'est déjà difficile, a fortiori dans le Congo profond comme on le dit, vous veniez récemment des vacances parlementaires, ça doit être très difficile pour les populations là-bas.
Vous savez que dans notre pays, malgré toutes les potentialités que nous avons, il y a même deux coins où ils n'ont jamais vu l'électricité. Ils ne connaissent même pas c'est quoi le courant. Donc, si d'ailleurs dans des grandes villes comme Kinshasa, Lubumbashi, la souffrance est immense, et alors que dire des autres coins, et aussi de ces coins qui n'ont jamais vu les courants, quand est-ce qu'ils verront les courants si on ne se met pas en œuvre? C'est-à-dire, il est important, il est temps que nous puissions nous mettre tous ensemble autour de la table pour rechercher des voies et moyens, et que nous puissions exploiter cette potentialité de notre pays, et nous puissions nous mettre au moins sur le chemin afin de trouver une solution.
Monsieur le député Jethro Muyombi, je vous remercie.
C'était donc notre invité, le député national Jethro Muyombi, qui s'entretenait avec Alain Hiron. C'est ce qui met fin à ce journal du matin, préparé pour vous par Livin Bouingavoubou et mis en onde par Pierre Diassinois. Ce journal est à réécouter sur notre site internet www.radiocapi.net.